L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour Jean-François Rode.
Bonjour Christophe.
Nous recevons aujourd'hui Anne-Sophie Chauvet. Anne-Sophie Chauvet, vous dirigez une collection aux éditions de l'Emmanuel Jeunesse, qui s'appelle Le Témoin de l'Invisible. Et là, nous avons reçu 5 biographies de saints. Alors, c'est très important, cette façon de vivre la vie de saints, de nous approprier leur vie, de vivre ce compagnonnage salutaire qui avait été un peu oublié, d'ailleurs, il faut le dire, parce qu'on a eu très longtemps des hagiographies assez complexes ou des biographies qui sont parfois contradictoires. On dit un tel dit ça, mais peut-être qu'on peut remettre en cause la véracité de tels miracles, etc., etc. J'ai vu que vous avez publié un Charles de Foucault. Moi aussi, j'en ai écrit un. Et donc, j'avais fait pas mal de recherches. Et je vois qu'à l'intérieur de votre livre, vous prenez des partis pris, du moins l'auteur prend des partis pris. Et je trouve ça très intéressant. Parce que vous transmettez, vous donnez envie à des jeunes de vivre ce compagnonnage. D'où est née cette collection?
Oui, bonjour tout d'abord. Bonjour. La collection, parce qu'en fait, je suis certes éditrice jeunesse, mais aussi mère de 4 enfants qui malheureusement grandissent. Il paraît que ça arrive.
Pourquoi malheureusement? c'est plutôt merveilleux.
Oui. Alors là, ils arrivent à l'adolescence. Donc c'est. Il y a une phase un peu moins
enfants,
merveilleuse. Exactement.
Oui, c'est un peu technique, on va dire.
Voilà. Mais voilà. Du coup, lorsqu'ils étaient tout petits, je n'avais absolument aucun problème pour leur trouver des albums, des bandes dessinées racontant des vies. Et je me suis rendu compte qu'en fait, arrivé à l'âge de 9-10 ans, c'est peut-être le moment où ils ont le plus besoin d'avoir des modèles. C'est le moment où justement ils grandissent, ils se construisent. Et l'offre était un peu moins riche. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on leur donne envie de découvrir ces grands modèles que sont les saints, alors saints ou en voie de sainteté.
Ou béatifiés.
Voilà, avec des couvertures qui sont des couvertures aux couleurs très vives, parce que comme ça, dans leurs étagères, ils ont envie de les prendre. En librairie, ils les voient, ils ont envie de les prendre. Et ensuite, de raconter la vie des saints sous forme de roman. Donc en fait, c'est un roman biographique. Parfois un journal intime, parfois un roman. Mais du coup, on plonge dans la vie du saint et on n'a pas l'impression de lire une biographie. Parce que pour un enfant de 9-10 ans, lire une biographie, j'imagine que la vôtre est passionnante, mais non. Pour un enfant, c'est rébarbatif.
Oui, absolument.
Et on a besoin de lui montrer que c'est une personne comme nous, comme vous et moi.
Et là, ça se lit comme les 3 mousquetaires.
Exactement, exactement. Il y a des rebondissements, on est pris, on a envie de tourner les pages. Et...
C'est-à-dire que la sainteté devient une sorte de roman d'aventure de Dieu.
Exactement, et ça montre surtout qu'elle est possible pour n'importe qui, et que malgré les aléas, malgré les difficultés, malgré... On est tous appelés à la sainteté.
Alors on a Carlos...
Carlo Acutis.
Acutis, voilà, qui est né en 1991. Imaginez-vous qu'il est mort en 2006 et il a été vénéré comme bienheureux par l'Église catholique.
Oui.
Et c'est extraordinaire d'avoir cet adolescent, donc on s'y retrouve tous.
Exactement.
Passionné d'Internet.
C'est ça. Celui-là, il parle particulièrement aux jeunes. D'abord, ils en entendent beaucoup parler dans leurs aumôneries.
Alors, aujourd'hui, il est. C'est incroyable, c'est une vedette. Pardon, moi, à ma génération, évidemment, on connaît. Je constate. Qu'il est très célèbre pour les jeunes et j'ai envie de le connaître parce que c'est un vrai feu de paille.
Oui, exactement.
Feu d'artifice plutôt que feu de paille.
Oui,
parce que le feu de paille, ça s'éteint.
C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que ça se répandait très très vite, comme le feu sur les chaumes.
Ben c'est un personnage moderne.
Exactement, c'est-à-dire que même si, évidemment, en 2000, quand il est devenu adolescent, il y avait peut-être... Enfin, les ordinateurs ou les téléphones portables n'étaient pas ceux que les enfants ont aujourd'hui entre les mains, mais quand même, c'est un jeune qui connaissait Internet, qui avait un ordinateur. Exactement, donc ça leur parle. Parce que, évidemment, Charles de Foucault ou Saint-Louis, ça les enthousiasme, mais ça fait partie un peu de l'histoire de France. Là, Carlo, c'est leur quotidien.
Oui, parce que Carlo, il passe autant de temps dans l'adoration eucharistique que sur les écrans. Il a une passion pour l'Eucharistie, c'est ça qui est étonnant dans son très jeune âge. Et il va développer des sites internet, il va faire même une exposition sur les miracles qui se passent au cours de l'Eucharistie. Et l'exposition va être reproduite, je crois, plusieurs milliers de fois, notamment aux États-Unis. Et l'exposition va faire le tour du monde.
Exactement. Et tout ça avant l'âge de 15 ans. Il est incroyable. C'est vraiment un modèle pour les jeunes. Et à côté de ça, il a cette passion pour l'Eucharistie et il joue au foot tous les jours avec ses copains. Donc, il y a une espèce de proximité pour nos jeunes adolescents qui est incroyable et qui leur montre qu'en fait, c'est possible que Dieu soit premier servi dans leur vie, tout en ayant des copains, tout en jouant au foot. Et voilà, on peut être un saint joyeux et un sein du quotidien joyeux.
Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois presque dans l'histoire de l'Église, on va avoir une béatification qui, à laquelle assistent les parents. C'est-à-dire qu'on a de jeunes parents, parce qu'ils ne sont, sont pas vieux, hein, ces parents.
Non, non, et puis ses frères et sœurs.
Et ses frères et sœurs qui assistent sur la place Saint-Pierre à la béatification de leur fils ou de leur frère. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et on a retrouvé le corps quasiment intact, qui est maintenant dans une châsse de verre pour que l'on puisse venir le vénérer et le prier. Et c'est un ado en jean, quoi. Donc c'est très bouleversant et oui. C'est très intéressant de lire cette, cette biographie où on voit d'ailleurs ce, ce portrait très moderne hein, sur la couverture et ça devient un compagnon de route.
Oui, exactement, exactement. Et c'est un peu l'intuition que j'avais pour cette, cette collection. C'était faire de tous ces saints, de toutes ces saintes, des compagnons du quotidien pour nos, nos jeunes lecteurs.
Alors, je vais être un peu désagréable, mais quand je...
Soyez désagréable, allez-y, je me prépare.
Alors, moi, je cherche toujours qui sont les auteurs. Là, je me suis dit, oh là là, elle a pris toutes les dames catées. Donc, on a Carlo par Bénédicte de Lélis, on a Clotilde Janin qui signe Charles de Foucault, on a Marie Malcurat qui signe Mère de cet enfant, qui signe Pauline Jaricot, on va y revenir. On a Marie Berthier qui signe Don Bosco, Isabelle Stock qui signe Bernadette, et puis Claire Astoffli qui signe le Louise de Marillac.
Oui.
Donc finalement, ce sont que des autrices, comme on dit aujourd'hui. Vous avez pris toutes les dames catées du coin ?
Non, 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 pas
Comment
du tout. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand quelqu'un nous contacte pour écrire dans cette collection, on lui demande de quel saint il se sent le plus l'auteur se sent le plus proche.
Ouais.
Donc en fait, nous, on n'impose pas du tout de personnage. Et donc, il s'avère que,
ces femmes-là...
Non, bah, pour l'instant, on a eu que ces propositions. Ceci étant dit, nous avons deux hommes qui sortiront en 2027, des témoins...
D'ailleurs, il faut faire remarquer à Christophe qu'il n'y a pas que des dames catées.
Non, il y a aussi des papas catés, des hommes catés.
Et donc, vraiment, il est totalement archaïque là-dessus.
Non, mais j'ai dit que j'allais être désagréable, donc
Le fus. Mais donc, nous avons deux hommes, alors je ne peux pas encore vous donner les noms, mais qui, pour un Saint-Philippe Néri et Jeanne d'Arc, sont écrits par des hommes.
Très bien.
Voilà.
Alors, comment vous vous situez, par exemple, quand je vois la concurrence, il y a les petites vies de saints, par exemple, chez Salvatore,
oui.
Qui marchent pas mal.
Oui.
Comment vous vous placez par rapport à ça ?
En fait, je trouve que ce qui est très, très intéressant, c'est que quand un auteur parle d'un saint, il écrit avec ses tripes, il écrit avec ce qu'il aime. Et donc, pour un enfant, lire plusieurs fois la vie d'un saint, de façon différente, ça va lui faire découvrir différents aspects. Nous, les témoins de l'invisible, ça va être... Alors certes, évidemment, on aborde la spiritualité du saint, mais c'est surtout raconter sa vie. Raconter comment il en est venu, comment il a vécu, quelles sont les épreuves qu'il a traversées. Et après, chez d'autres éditeurs, il y aura des livres de qualité équivalente, tout aussi bons, et qui vont plus mettre qui vont plus insister sur la spiritualité ou plus... Et donc tout ça, c'est ce qui va former la culture religieuse des jeunes lecteurs.
Alors il y a un côté un peu signe de piste de jadis... C'est-à-dire que ça s'adresse évidemment à des 10-15 ans, je dirais.
Oui, oui, 9-13 ans. 9... À 15 ans, ils vont peut-être un peu... Enfin, ce sera facile à lire, disons.
Oui, enfin, ils vont être emballés par l'histoire de Carlo.
Oui, exactement, oui, oui. Ou même, moi, je sais que Saint-Louis, par exemple, plaît beaucoup, parce que, alors, Saint-Louis, l'auteur nous emmène en Terre Sainte, elle ne cache rien des difficultés que les croisés ont rencontrées humainement sur place. Enfin, c'est un roman d'aventure.
Moi, je consente tout à fait à cette idée que, évidemment, les enfants ont besoin de modèles et qu'il faut leur trouver de la nourriture pour ça. On s'est tous emballés quand on était enfant avec un certain nombre de récits. Donc, c'est vraiment très bonne idée. Très bonne idée de faire ça sous forme d'un roman et très bonne idée de faire ça sous forme de... Comment dire de raconter la vie et pas simplement dérouler le tapis rouge de la sainteté. Parce que le problème, on le sait bien, hein, des hagiographies, c'est que, bon, les héros sont saints immédiatement.
Ouais.
Ça fonctionne très, très bien. Tout marche très bien. Et finalement, on se dit, bah oui, mais lui, c'est lui, et moi, je peux pas rentrer dans ce... Je ne suis pas de ce niveau-là, je ne suis pas de cette trempe-là, etc. Donc c'est important de montrer que ces saints, les plus grands saints, ils ont cherché leur voie, ils ont mis du temps à trouver la manière pour eux de suivre le Christ, et
oui.
C'est vraiment important.
Il y en a une qui m'a marqué comme ça, que j'ai découverte grâce au volume, c'est Louise de Marillac, qui était donc qui a accompagné Saint-Vincent de Paul dans sa création des Filles de la Charité. Et en fait, c'est une femme qui est absolument exceptionnelle, merveilleuse, qui a consacré sa vie aux femmes les plus pauvres. Et toute sa vie, elle a pensé qu'elle ne valait pas la peine, qu'elle n'était pas à la hauteur, et elle avait une admiration sans borne pour Saint-Vincent de Paul. Lui avait une admiration sans borne pour elle, mais elle se sentait indigne. Et c'est incroyable de se rendre compte qu'une femme si sainte a eu ce sentiment d'usurpation toute sa vie, en fait.
Et mais ça, c'est le regard des hommes par rapport aux vies de saints. C'est-à-dire qu'en réalité, vous voyez que tous les grands saints, derrière tous les grands saints, il y a toujours une femme. Moi, j'aime bien ces saints en couple. C'est-à-dire qu'on va avoir Louise de Marillac avec Vincent de Paul, mais on va avoir Claire avec François, on va avoir peut-être même Marie-Madeleine avec Jésus. Et il y a toujours une femme très importante qui, on l'a vu avec l'abbé Pierre.
Oui, Jeanne de Chantal et François de Sales, on en parlait l'autre jour.
Absolument. Donc, il y a toujours, dans ces grands saints, il y a toujours un couple, finalement. Oui. Alors, je ne veux pas dire que c'est un couple conjugal, en fait, mais je veux dire un binôme.
Oui.
Et il y a toujours le reflet féminin, ou peut-être le fondement féminin, de la vie du saint. Et là, je crois qu'il y aurait un travail à faire, ou peut-être en un seul volume, mais peut-être en plusieurs volumes, pour montrer justement que ces grands saints ont toujours été accompagnés par une femme qui, elle-même, va devenir sainte quelques temps plus tard. Et ça, c'est vachement important.
Oui. C'est la richesse de la complémentarité, en fait, deux intelligences qui se rencontrent et qui n'ont pas la même façon de penser, la même façon. Et en fait, les deux complémentaires forment quelque chose de génial et de sain, en fait.
Mais bien sûr.
Alors, je rebondis juste pour une microseconde féministe sur la sainteté qui arrive plus tard pour les femmes. Mais par exemple, la pauvre Louise de Marillac, Saint Vincent de Paul a été canonisé quasiment immédiatement.
Enfin, très vite.
Un siècle après, ou quelque chose comme ça, et la pauvre Louise, elle a attendu, je crois, 3 siècles ou 3 siècles et demi pour être canonisée. Donc, voilà, petite injustice.
Vous avez vraiment souligné ça. C'est très important de parler de Louise de Maria, parce qu'elle est absolument, comme vous le disiez, admirable, exceptionnelle. Et Vincent de Paul n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait s'il n'avait pas rencontré Louise de Maria.
Mais bien sûr.
Alors, après, peut-être qu'il y a la manière...
Allez, on va sur un terrain glissant, on y va. Allez, Jean-François, avec votre diplomatie habituelle et légendaire.
Non, mais il y a une manière de célébrer, de déclarer quelqu'un saint dans l'Église qui a une procédure extrêmement longue, compliquée et coûteuse. Là aussi, c'est moi qui suis désagréable, mais de fait, il a fallu que les Filles de la Charité financent quelqu'un pour faire la postuler la cause de Louise de Marillac, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de fondatrices d'ordre qui sont canonisées, parce qu'il y a quelqu'un derrière qui pousse.
Dès qu'il y a un legs pour la communauté, on béatifie la supérieure.
Alors qu'à Saint-Vincent de Paul, etc., il était déjà quasiment célèbre au moment de...
Ça.
Donc il a tout de suite été repéré comme saint. Donc,
alors, on le voyait
il faut rééquilibrer. Oui, il était extrêmement bien placé à la cour.
Mais oui.
Donc il faut replacer, lutter pour que les saintes qui sont un peu moins connues soient davantage connues, compris pour les jeunes.
Oui, mais alors je vais être encore plus désagréable, c'est-à-dire que dans toute l'administration vaticanaise de la cause des saints, il y a essentiellement des hommes. Donc, depuis le début de l'histoire.
Oui.
Bon,
oui.
Lorsque tout ça va se féminiser, on peut l'espérer, eh bien, il y aura certainement des saintes. On s'apercevra qu'il y a peut-être autant de saintes que de saints,
oui.
Sinon plus.
Oui, oui. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, les deux derniers tomes de la collection qui sont sortis là, juste avant Noël, de Madeleine Delbrel et Claire de Castelbajac, on a tenu, en fait, à les mettre à l'honneur. Elles ne sont pas encore canonisées, mais en revanche, d'avoir ce modèle de deux femmes qui ont vécu au XXe siècle, un peu, voilà... Alors, c'est difficile de dire le pendant de Carlo Acutis au féminin, parce qu'elles n'ont pas du tout la même vie. Madeleine Delbrel a vécu beaucoup plus longtemps. Mais ça permet aussi de montrer que la sainteté ne s'est pas arrêtée au 19e siècle.
Vous poussez les dossiers, vous.
Voilà, exactement. Bientôt, on viendra nous voir pour...
Mais oui. Alors, moi, je me souviens, enfant, on était très pris, on va parler tout à l'heure de bande dessinée avec vous, Jean-François Rode. On était très pris par les bandes dessinées, vous savez, qui étaient dessinées par Courtois.
Oui.
C'était l'abbé Courtois, je ne sais plus son prénom. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué, parce qu'il y avait notamment...
Celui qui avait fait le cœur vaillant.
Voilà.
Le mouvement cœur vaillant, âme vaillant, c'est Courtois.
Alors, il y avait une vie de sainte, de Sainte Catherine Labourée. Ça m'avait énormément marqué quand j'avais 9 ans, 8-9 ans. C'était tellement bien dessiné. Mais c'est rester ancré.
Oui.
C'est-à-dire que dans notre imaginaire d'enfant, sur lequel on a construit ensuite notre vie, oui, d'une certaine façon, eh bien, on a ces pierres qui sont là, qui sont toujours vivantes. Et quand je retrouve un album de Courtois dans une vieille librairie, j'aime bien le feuilleter parce que je retrouve les saveurs que j'avais enfant.
On les retrouve dans les maisons de famille, pardon de te couper, mais il faut avoir ça dans les maisons de famille.
Oui. Mais oui.
Parce que c'est de génération en génération, tout d'un coup, pendant l'été ou à un moment, on tombe sur la malle qui contient tous ces livres et on redécouvre ça.
Et on aime bien le raconter à vos petits-enfants.
Absolument.
Bon. Et alors là, justement, on a une sorte de changement. C'est-à-dire que dans votre collection, moi, j'ai trouvé délicieux de voir ce côté très romanesque. Chacun s'approprie l'histoire, oui, ou suit l'histoire. Le vocabulaire est simple, mais il n'est pas infantilisant.
Non, surtout pas.
Et ça, c'est une qualité.
Oui, oui, je tiens vraiment à ce qu'on donne de beaux textes à lire. Et c'est quelque chose, c'est un des critères, en fait, que je donne aux auteurs avant qu'ils se mettent à écrire.
Et il y a des dialogues très vivants.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a vraiment les mots de ce qui aurait pu se passer, parce que naturellement, on n'était pas là et puis il n'y avait pas de magnétophone. Mais on a les mots et on est guidé par les dialogues, par les scènes.
Oui.
Par les conflits, quelquefois, c'est très intéressant.
En fait, le but, c'est vraiment que les enfants aient un livre qui soit dans lequel ils plongent et donc faire la juste part entre le refus de toutes les légendes dorées, vraiment, ça, c'est quelque chose de très important pour moi en tant que directrice de collection, et en même temps, ces dialogues qui sont complètement fictifs et on l'assume. On assume que quand Bernadette parle à sa mère, elle va lui parler peut-être d'une façon... Au 19e, une jeune paysanne n'aurait pas parlé comme ça à ses parents. Il se serait sans doute d'ailleurs pas du tout parlé, en fait. Mmh. Mais on va introduire cette petite part de fiction pour rendre le héros, le personnage, plus proche de nos jeunes lecteurs.
Alors, vous qui avez 4 enfants, qui sont donc des lecteurs potentiels, enfin, c'est un peu votre laboratoire, j'imagine.
Tout à fait.
Bon, lorsqu'on connaît le saint comme Bernadette ou Charles de Foucault, pourquoi votre fille ou votre fils va ouvrir Pauline Jaricot, soit parce qu'elle s'appelle Pauline, soit parce
Il y a de ça, c'est-à-dire qu'on sait que les livres sont aussi achetés par des parents ou des marraines qui retrouvent le prénom d'un de leurs filleuls, donc on va lui offrir.
Il n'y avait pas de Sainte Pauline avant elle, je le signale.
Ah bah, donc voilà, il y a aussi la localisation géographique. On sait que Geneviève se vend beaucoup plus à Paris, Pauline à Lyon, donc voilà, ça c'est sûr, ou quand il y a un sanctuaire, voilà... Claire de Castelbajac à Boulogne, il y a cet attachement géographique. Et après, je crois que ça peut aussi être le contexte historique ou voilà, la Pauline Jaricot. Moi, quand je l'ai corrigée, je n'ai aucune attache lyonnaise et c'est une région que je connais très mal. Et j'ai découvert la vie des canuts et cette industrie de la soie au 19e à Lyon, c'était passionnant. Et donc, c'est aussi une façon un peu d'attraper les mouches. Vous savez, on dit on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, et là, on attrape nos petits lecteurs avec ces contextes historiques.
Mais normalement, on choisit toujours ce que l'on connaît quand on est enfant. C'est-à-dire, quand on ne connaît pas, on dit « Ah, j'aime pas ça ». Bon.
Alors après, en général, quand ils ont lu un tome,
oui,
en fait, ils ont envie de découvrir les autres. S'ils ont lu un premier parce qu'on leur a offert et qu'ils connaissaient, et ben ensuite, ils vont s'aventurer à lire d'autres vies parce qu'ils vont avoir confiance dans la collection, en fait.
Est-ce que je parlais des Dames Cathé tout à l'heure, mais est-ce que les responsables de catéchèse s'intéressent à votre collection ?
Ça, je ne sais pas. Est-ce que parfois, ils l'utilisent ?
Effectivement, il y a besoin de médiation.
Évidemment.
Parce qu'un enfant de lui-même, il va pas, même s'il tombe sur le Pauline Jaricot, il va se dire, bon...
Oui.
S'il n'y a pas quelqu'un qui lui dit, mais attends, cette femme, elle est formidable,
oui,
et voilà un peu ce qu'elle a fait, tu devrais lire ça, tu vas voir, sa vie est passionnante. Il faut forcément des médiateurs.
Oui.
Donc, en catéchisme,
oui,
en école, c'est dans les familles.
Alors, ce que j'ai pu voir, moi, en librairie aussi, parfois, c'était quand ils sont présentés, on utilise un terme anglais que je trouve très moche, mais en facing, donc avec la couverture face au potentiel client. En fait, les jeunes sont attirés par ces couleurs-là, parce que c'est vrai que quand ils sont les uns à côté des autres, ça fait une sorte d'arc-en-ciel. Et donc, ils s'approchent, ils retournent, et là, en général, une fois qu'ils ont lu la quatrième de couverture, c'est à peu près gagné, parce qu'ils... Ça leur donne envie, en fait.
Alors, à propos de librairie et de facing, Jean-François Roth, qu'est-ce qu'on va aller voler sur les tables de la procure ?
On ne vole rien à la procure. mais, justement, je reviens un peu dans la continuité. Il y a effectivement d'autres séries qui permettent de découvrir les saints et même des choses anciennes. On parlait de l'abbé Gaston Courtois.
Ah ben le voilà.
J'ai rapporté la vieille collection Belles Histoires Belle Vie qui a été très modernisée, mais qui existe toujours. Il faut signaler ça aux grands-parents parce que
ils l'ont
connue.
C'est génial.
Et en fait, c'est toujours, c'est quand même très travaillé.
Ça me renvoie à ma jeunesse. J'adore.
Il y a un petit côté, il y a un petit côté archaïque, mais ça peut être très intéressant.
C'est éternel, ça. Ouais.
Et puis, je signale juste comme ça les noms des maisons d'édition qui font des bandes dessinées qui sont aujourd'hui aussi très, très intéressantes, très importantes. Et en particulier avec un héros dont on parle beaucoup ces temps-ci, à juste titre, Arnaud Beltrame. Il y a des livres pour adultes, mais il y a aussi...
Il y a déjà une bande dessinée sur lui ?
Oui.
Une magnifique bande dessinée, d'ailleurs, qui a beaucoup
très
de succès.
Belle, ouais.
Un peu comme Carlo Acutis. Je n'ai pas apporté la bande dessinée sur Carlo Acutis, mais ça existe aussi. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont très, très, parlent très, très fort aux jeunes, et peut-être même un peu aux adultes. Et puis, il y a la collection classique sur Don Bosco, par exemple. C'est l'édition du Triomphe, je dis ça pour les auditeurs. Il y a vraiment toute une série. Si vous allez en librairie, vous allez trouver plein de très bonnes BD fait par des gens qui savent dessiner, qui savent.
C'était la Saint-Don Bosco hier. Donc.
Et Marie Berthier a signé le Don Bosco dans votre collection. On s'aperçoit que c'était un homme très joyeux.
Extrêmement joyeux.
Mais c'est merveilleux, ça. Oui. C'est un type, il est toujours joyeux. Oui. Tout est bien, tout est beau, tout est bon. Oui. C'est formidable.
Oui, oui. C'est vraiment un modèle incroyable pour la jeunesse, pour les profs. En fait, je trouve que tous les profs devraient lire une vie de Don Bosco avant de se retrouver dans une classe, dans une école.
Absolument.
Et c'est la joie dans l'enseignement.
Et c'est le sourire qui fédère. Alors, un autre...
Non, mais c'est simplement pour indiquer que... Donc, je n'avais peut-être pas assez souligné que c'était les éditions Plein Vent qui avaient fait Arnaud Beltrame.
Ouais.
Parce que je n'ai pas apporté ici, il faut aller dans les librairies, il y en a des dizaines. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose qui est à la fois très, très facile à lire pour les enfants, mais qui est très, très formateur. Hein. Je crois qu'il y a encore peut-être un certain nombre, je crois qu'il n'y a plus beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de gens qui méprisent un peu la bande dessinée. On peut lire, effectivement, ça peut être une manière de se mettre à la lecture que de prendre vos livres. Mais la BD est aussi peut être formatrice. Et c'est là, pour le coup, voilà, vous laissez traîner ces BD chez vous. C'est bien rare qu'elles ne soient pas ouvertes, y compris par le copain qui passe, etc. Donc, il y a la collection Plein Vent, il y a donc les éditions du Triomphe.
Oui.
Et puis, pour le plaisir, je signale cette bande dessinée consacrée au père Sevin, parce qu'il n'est pas assez connu, sauf des scouts, mais il a eu un rôle formidable d'acclimatation du scoutisme en France, à partir de Baden-Powell. C'est un jésuite formidable qui est... Voilà, il y a une bande dessinée. Je pense que ça vaudrait le coup de faire une vie de Jacques Sevin dans votre collection.
Ah ben bonne idée, je le note.
Ah, il faut demander ça à Jean-François Roth.
C'est ça.
Il écrit très
comme
bien.
Comme ça, nous aurons un auteur.
Voilà. Et il connaît très bien la Compagnie de Jésus, donc c'est absolument parfait. Votre catalogue...
Bon, est-ce que j'ai encore le...
Oui, bien sûr.
Parce qu'il y a aussi quelque chose que je voudrais signaler. Bayard a fait, et ça date de quelques temps, mais c'est toujours valable, une collection qui s'appelle « Les chercheurs de Dieu ». Alors, c'est classique. Par exemple, vous voyez, j'ai pris Jeanne d'Arc. Mais là, l'astuce de l'éditeur, que j'apprécie, que j'approuve, c'est d'avoir mis à côté quelqu'un de beaucoup moins connu. Par exemple, Bartholomé de Las Casas. Personne n'achètera, beaucoup moins de gens achèteront Bartholomé de Las Casas. On a un livre rien que consacré à lui.
Non, c'est qui ?
Mais si, ben justement, toi tu le sais, mais très peu de gens le savent. Et donc, celui qui prend Jeanne d'Arc, tout d'un coup, il apprend que ce Dominicain a défendu les esclaves contre les colons en Amérique. Enfin, il a pris une position que absolument... d'avant-garde à cette époque, c'est un homme extraordinaire. Eh bien, c'est une bonne idée de prendre un héros très connu et d'ajouter tout le titre chercheur de Dieu des gens un peu moins connus qui méritent d'être découverts.
Sous la lumière de Dieu, mais pas forcément sous les sunlight des projecteurs médiatiques.
Et donc là, ça c'est Bayard qui fait ça.
Donc, encore une fois, j'insiste sur cette collection Témoins de l'invisible que vous dirigez, Anne-Sophie Chauvet, aux éditions d'Emmanuel Jeunesse, avec ses vies de saints. Et j'insiste pour que les catéchistes, ceux qui ont des groupes d'enfants, sachent raconter des histoires et raconter la vie d'un saint. Et ensuite, transmettre le livre ou proposer le livre. On est passionné parce qu'on est pris par un conteur. Il faut bien savoir que l'Évangile, au départ, c'était des conteurs qui se transmettaient par voie orale avant que ça soit écrit très longtemps après la mort du Christ. Mais au départ, ce sont des conteurs. Eh bien, il faut retrouver le sens du conte et de l'histoire. Et ça, vous l'avez trouvé, Anne-Sophie Chauvet, dans vos livres. Et c'est très important même de lire en classe, voix haute, Une vie de saint, parce que ça passionne toujours.
Tout à fait.
Et ça rentre dans l'imaginaire de nos enfants.
Oui, tout à fait.
Merci Anne-Sophie Chauvet, vous dirigez la collection Témoins de l'Invisible aux éditions Emmanuel Jeunesse. Merci Jean-François Rode pour toutes ces bonnes idées que nous allons nous procurer à la procure. Merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Alpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au Théâtre Michel pour voir Ma vision de l'histoire, de et avec Sébastien Zopardis, une comédie à voir en couple ou pas. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.